Bonsoir. Trois sujets dans la tribune de la presse de ce soir. Les assemblées provinciales qui réclament d'appliquer dès le mois prochain la retenue à la source de 40% de leurs recettes telles que prévues par la Constitution. Et puis l'annonce par le gouvernement d'une table ronde avec les forces vives des deux Kivus pour régler la situation sécuritaire dans ces deux provinces de l'Est de la RDC. Et enfin, cette révélation de la radio BBC qui cite des casques bleus pakistanais d'être impliqués dans le trafic hors contre armes. Nous avons dans ce studio des invités, les journalistes, parce que c'est leur tribune, Félix Kabouizi, directeur de publication du journal La Référence Plus, John Gombois de la télévision Antenne A, John Gombois qui va nous rejoindre dans cette émission, et puis depuis Goma, au Nord Kivu, Albert Moïssa, rédacteur en chef de Radio La Colombe, une radio qui émet à Goma même. On devrait avoir Colette Brachmann, mais qui ne sera pas avec nous. Bonsoir donc à Félix et à tous les amis invités, les confrères. Voilà, ouvrons sans transition cette tribune de la presse par le premier sujet relatif à la prise de position des assemblées provinciales qui semblent déterminées à retenir à la source les 40% de leurs recettes. Certains journaux paraissant à Kinshasa sont revenus sur cette information ce vendredi. C'est le cas du quotidien L'Observateur qui fait état du point de presse des présidents des assemblées provinciales tenues hier à Kinshasa au Grand Hôtel. D'après notre confrère, les présidents des assemblées provinciales radicalisent leur position vis-à-vis du gouvernement central en réaffirmant leur déclaration déjà connue de Matadi sur la retenue qu'ils veulent immédiate de 40% de leurs recettes. Mais en plus, ils refusent, toujours selon l'Observateur, toute affectation par le gouvernement central des fonctionnaires en province. Albert Moïssa, vous êtes rédacteur en chef de Radio La Colombe. Quel commentaire vous faites de cette radicalisation des assemblées provinciales?
Oui, merci Jean-Claude Toumba Kambanga. Et j'aimerais ici saluer cette prise de position du président des assemblées provinciales. Et selon même cette prise de décision ou prise de position de ce président, le commentaire que j'ai à faire là-bas, ce n'est qu'un commentaire constitutionnel, un commentaire que veut le président des assemblées, qui veulent à tout prix qu'on applique la Constitution. Eh bien, la Constitution demande à ce qu'il y ait retenu de 40% à la source. Et ce n'est que normal. Aujourd'hui, je vous ferai un exemple de la province du Nord Kivu, où les autorités provinciales ne savent pas faire ça de soi, où le gouverneur a été invité pour répondre à une question d'actualité à l'Assemblée provinciale. Il a fait montrer un manque à gagner de 3 747 245 000 $. Et jusqu'à présent, c'est le manque à gagner de la province. Alors, le président ne fait qu'il ne faut que dans la logique, ils sont dans la voie et qu'on applique la Constitution. Donc, selon moi, ils ont droit à revendiquer ou à hausser le ton que le ministère ou que le gouvernement respecte les textes que la population avait voté au référendum. Et c'est la Constitution de la République démocratique du Congo. Là, il n'y a pas à tergiverser. Il n'y a que l'application de la loi qui doit être là. Et bien, c'est la Constitution de la République. Voilà ce que je peux donner comme commentaire à ce point.
Félix Kabouizi, vous êtes directeur de publication du journal La Référence Plus. Est-ce que c'est le moment qui convient pour une telle radicalisation et surtout réclamer la retenue à la source de 40%? Bien sûr que c'est prévu par la Constitution.
Oui, mais je crois qu'ils ne sont pas hors la loi. Les assemblées provinciales, en fait, réclame tout simplement la mise en application, comme notre confrère venait de dire tout à l'heure, des dispositions qui sont contenues dans la Constitution. Donc, même si il commence à partir du mois prochain à retenir à la source de 40%, on ne devra pas les considérer comme des hors-la-loi. Ils auraient été considérés comme des hors-la-loi si ces dispositions-là n'étaient pas contenues dans la Constitution. Ça, c'est de un. De deux, il faut constater effectivement qu'il y a suffisamment de mauvaise foi de la part du gouvernement. Le gouvernement dit qu'il faut qu'on adopte au préalable la loi sur la décentralisation, mais nous constatons qu'il y a déjà une application plus ou moins sélective de la Constitution, puisque les assemblées, les exécutifs provinciaux sont installés sur base de la même constitution. Mais pourquoi le gouvernement tarde-t-il à mettre en application cette disposition? Je crois que le vrai problème ici, c'est que probablement dans le gouvernement, il y a des gens qui ne veulent pas lâcher prise très rapidement. Puisque si les 40% sont octroyés dès à présent, aux provinces, probablement que certains ministres, certaines administrations sur place ici à Kinshasa risquent d'en pâtir. Donc je crois que...
En pâtir comment
Oui, c'est 40% de toutes les recettes générées par les provinces qui seront immédiatement affectées pour le fonctionnement des provinces. Or, il y a probablement certains gens qui sont habitués ici à être trop gourmands, à vivre sur les recettes des provinces.
À gérer toute l'enveloppe.
À gérer toute l'enveloppe, puisque vous savez que sous la Première République, on avait fonctionné plus ou moins avec ce régime. Il y avait 40% qui étaient rétrocédés aux provinces, et le gouvernement central fonctionnait normalement aussi avec 60%. Et au fil du temps, on a vu cette enveloppe-là se rétrécir, de 40, on est passé à 20, et de 20, on est même retombé à 10%. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, quand vous arrivez dans les provinces, la plupart du temps, les gens sont confrontés à d'énormes difficultés. Donc, cette disposition-là de rétrocéder 40%, à mon avis, est une aubaine pour les provinces et il faudrait qu'effectivement le gouvernement le leur laisse. Et je crois que ce serait tout à fait justice puisque c'est tout à fait constitutionnel.
Éric John Gomboa, que nous saluons en fait votre entrée dans ce studio. Est-ce que vous pensez que les assemblées provinciales qui radicalisent leur position pour réclamer la retenue de 40% des recettes, est-ce que c'est le moment de le faire?
Et oui, plus que le moment, parce que déjà quand les exécutifs provinciaux sont installés, ils doivent avoir le moyen de leur travail, de leur politique. Mais où est-ce qu'ils vont tirer ce moyen? Moi, je suis même étonné que les assemblées provinciales en arrivent là. C'est quelque chose qui devrait se faire automatiquement. C'est inscrit dans la Constitution. On attend une loi cadre pour définir les contours, mais on a trop attendu. Il y avait possibilité de prendre des mesures transitoires pour permettre à l'exécutif provincial déjà de continuer, de commencer à fonctionner sur base des principes de la Constitution. En tout cas, la loi qui allait venir, c'est sûr qu'elle n'aurait pas fait moins que la Constitution. Or, la Constitution inclut déjà cette rétrocession qui est retenue même à la source.
Oui. Nous allons suivre avec vous la raison avancée par les assemblées provinciales pour justifier leur prise de position. C'était après leur réunion de Matadi. On écoute le président des présidents des assemblées provinciales. Il est également président de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo, François Kimasi Matuiku, qui évoque la Constitution. Il était invité de Dialogue en Congolais de lundi dernier.
Nous, élus du peuple, nous disons immédiatement, c'est pas une profession, mais prise à la charge, retenue à la charge, et d'ailleurs, nous avons des trucs de le faire dès ce mois de juin. Il faut simplement remettre nos appareils administratifs à l'ordre. Attention, le fonctionnaire de gouvernement central est venu à le dire, mais qui n'obéira pas là où il a fait ses fonctions, les provinces vont le prier d'aller faire son œuvre auprès du monsieur le ministre du gouvernement central, où il sera.
Mais François Kimasi, est-ce que c'est pas logique ce que avance monsieur le ministre lorsque vous décidez comme ça avant même de vous rencontrer avec
la logique ne peut pas bafouer la loi. D'abord, c'est la loi, la Constitution. Tout logique, c'est quoi dans ce mettre au diapason de la Constitution.
Est-ce que c'est pas une sorte d'anarchie ce que vous
c'est avez pas de l'anarchie. Nous lisons la Constitution. Les articles nous disent, les provinces prennent, nous avons dit, nous comprenons, pas que l'anarchie. Nous appliquons la Constitution telle qu'elle est. Quand nous disons un seul article qui nous dit, en attendant la mise, en attendant des lois, en attendant des quoi. On nous a dit la Constitution d'application, le jour de sa promulgation. Et quelle est la date? Disons, nous ne céderons pas. Nous ne cédons pas. Le gouvernement menace, envoie des télégrammes, menace de punir les assemblées. Nous allons voir par quel article ils vont le faire.
Donc c'est un bras de fer.
Un bras de fer qu'ils veulent. Le peuple est avec nous parce que le peuple attend les 40%. Les enseignants, nous les payerons. Les charges, nous les prendrons en charge. Voilà, dès demain, nous sommes prêts à négocier.
Réponse du ministre du Budget, Adolphe Mouzitou, estime que les assemblées provinciales vont vite en besogne, alors que la rétrocession des compétences entre le gouvernement central et les provinces ne s'est pas effectuée. Le ministre du gouvernement central en charge du budget, Adolphe Mouzitou, dans cet extrait de la même émission DEC.
ce n'est pas négociable, et ça c'est clair, parce que c'est la Constitution qui le dit. Mais la Constitution ne s'arrête pas qu'à la rétrocession des recettes. Elle va aussi jusqu'à évoquer la rétrocession des compétences, et jusqu'ici dévolues au pouvoir central, qui dit compétence, dit aussi responsabilité, et donc prise en charge des dépenses rapportant aux nouvelles compétences. Donc, c'est dans un processus global des rétrocessions et des ressources, et des responsabilités ainsi que des charges du gouvernement central aux entités décentralisées dont la province, et cela à travers un texte que nous devons présenter au Parlement, à savoir la loi sur la décentralisation. C'est elle qui va codifier et mettre en application la disposition constitutionnelle qui confère aux provinces certaines compétences qui impliquent qu'elles aient une administration, qu'elles s'occupent des matières notamment l'éducation, de la santé, etc. Ce qui nécessite qu'elles aient des ressources appropriées pour ce faire. Et ce sont jusque-là ces ressources qui ont toujours été gérées par le pouvoir central, qui n'a donc pas rétrocédé jusqu'ici, sauf dans une faible proportion, les gros des recettes à caractère national pour assumer ses responsabilités. Et donc, tant que le gouvernement central devra payer les fonctionnaires de l'État du haut du sommet jusqu'au niveau de la collectivité, jusqu'au niveau de la chefferie, donc le gouvernement devrait en principe garder ses ressources dans une certaine proportion pour assumer ses charges. Mais dès que nous mettons en application la disposition constitutionnelle à travers le texte organique et la loi sur la décentralisation, nous devons donc accompagner la rétrocession des ressources aux dépens.
Albert Mouissa, vous êtes à Goma et rédacteur en chef de Radio La Colombe. Est-ce qu'on ne tend pas vers une crise entre le gouvernement central et les provinces?
À ce que je puisse dire, il n'y aurait pas de crise si les autorités du gouvernement central s'imprègnent du moins des lois de ce pays, et c'est la Constitution. Et si nous disons, c'est bien défini, quels sont les pouvoirs du gouvernement central face au gouvernement provincial? Et voilà, de par cette définition, ou de par ces attributions de tout et chacun, tout sera mis au clair. Comme le confrère venait de le dire, je pense que le gouvernement central a son rôle à jouer, qu'est-ce qu'il fait, et le gouvernement provincial. Quelles sont les limites du gouvernement central et où commencent les compétences du gouvernement provincial? Tout est clair. La Constitution est là, elle n'a qu'à départager les deux compétences ou les deux pouvoirs, le pouvoir central et le pouvoir provincial ou exécutif provincial. À mon humble avis, je pense qu'il n'y aurait pas crise si réellement la loi est respectée et c'est la loi qui est au-dessus de tout le monde.
Oui, John Gombois, parce que les assemblées provinciales, on l'a suivi, elles tiennent à commencer à retenir dès le mois de juin prochain.
Oui, effectivement, le ministre du budget a introduit une notion supplémentaire qui peut peut-être permettre une certaine relativisation, c'est-à-dire que c'est le gouvernement central qui continue de prendre en charge la rémunération dans l'administration publique jusque en province. Mais maintenant, il faudrait qu'en ce moment-là, qu'on se convienne, qu'on fasse la part des choses. Pourquoi est-ce que le gouvernement central se sent obligé de continuer à prendre en charge?
Et que les fonctionnaires, du moins au niveau des provinces, ils se disent prêts à payer quelques intérêts.
Effectivement, que le gouvernement central remette aux administrations, aux exécutifs provinciaux, les charges qui leur reviennent en ce qui concerne la rémunération des agents de l'administration publique, et on est quitte. Chaque province pourra s'y prendre en charge. Moi, je pense que il ne faut pas tergiverser trop là-dessus. Ça paraît un tout petit peu quand même louche. Il ne faut pas trop tergiverser. Et il faut donner aux populations locales le soin de pouvoir se prendre en charge. C'est une condition de l'émulation. Les systèmes de centraliser tout a donné ce qu'il a donné au pays. Et aujourd'hui, chacun là où il est, il veut donner le meilleur de lui-même dans sa province. Qu'on donne la possibilité aux gens de pouvoir s'y mettre tout de suite, quoi.
Félix Kabouizi, vous êtes directeur de publication de la Référence Plus. Certains analystes proposent même que le président de la République, si pas le Premier ministre, convoque les gouverneurs ou même les représentants de ces assemblées pour essayer de régler cette question en attendant les lois, notamment sur la décentralisation.
Non, moi, ça ne servirait à rien. Vous avez suivi la position du président, des présidents des assemblées provinciales. Il a dit que pour eux, il n'était pas question de tergiverser et qu'à partir du mois prochain, c'est-à-dire dans une semaine, ils retiennent immédiatement les recettes.
Mais ça va se passer comment quand on sent
On a suivi quand même les propos du ministre.
Non, non, la position du gouvernement est indéfendable de mon point de vue, pour la simple raison que le gouvernement est en fonction depuis 3 mois. À mon sens, cette loi sur la décentralisation aurait dû constituer les premières priorités du gouvernement.
Mais puisqu'elle n'est pas là.
Mais justement, pourquoi le gouvernement traîne? 3 mois après, pourquoi le gouvernement traîne? Pendant combien de temps on doit attendre cette loi qui n'a même pas encore élaboré, qui n'a même pas encore discuté au Conseil des ministres? Et vous connaissez également la lenteur au niveau de l'Assemblée nationale. Mais franchement, on risque d'attendre même toute une année. Ça ne sert à rien. Il y a des promesses aujourd'hui qui fonctionnent. Le cas du Katanga, on voit un gouverneur qui réhabilite des routes, qui réhabilite l'électrification, il donne
le Katanga a des moyens que d'autres provinces n'ont pas.
Mais bien sûr, il faudrait justement qu'on augmente ces moyens-là pour voir ce que cette province-là et d'autres provinces peuvent faire.
Mais là, déjà, c'est Félix, je dois te couper, excusez-moi, mais c'est justement une raison peut-être pour que les assemblées provinciales attendent les lois, parce qu'il y a notamment la caisse de péréquation qui est prévue pour secourir les provinces qui n'ont pas de moyens.
Mais bien sûr, la caisse de péréquation est prévue dans les 60%. C'est ça, dans les 60%. Il y a aujourd'hui des provinces, par exemple, qui n'ont même pas encore installé leur exécutif provincial. Je venais de suivre, il y a 2 jours, les plaintes du gouverneur du Bandundu. Les ministres provinciaux sont nommés, ils sont encore ici, ils sont même incapables de descendre dans le chef-lieu de la province pour commencer à travailler. J'ai lu ce matin un article sur Goma. C'est à peine que les ministres provinciaux commencent à s'installer avec juste une table, quelques 2 ou 3 chaises. Mais il faut donner à ces exécutifs provinciaux les moyens pour qu'effectivement on voit le développement s'enraciner à partir de la base. Je pense que la position du gouvernement, de mon point de vue, est indéfendable. Et de 2, même s'il y avait crise, la Constitution elle-même a prévu que la Cour suprême de justice pouvait régler, si vous voulez, les conflits de compétences entre le gouvernement provincial, le gouvernement provincial et le gouvernement central. Voilà. Donc la justice peut très bien régler ce conflit-là.
Et puisque vous parlez de Goma, cela nous permet d'entrer et d'aborder le deuxième sujet de cette tribune de la presse, l'annonce par le gouvernement d'une table ronde avec les forces vives des 2 provinces du Kivu pour régler la situation sécuritaire dans cette partie est du pays. Cette proposition a été différemment accueillie par les populations de ces 2 provinces. Radio Okapi a promené le micro dans les rues de Goma et Bukavu pour recueillir l'avis de la population. On les écoute.
Je m'appelle Sanda Mbali. Je réagis de Bukavu, principalement de la botte. En tout cas, selon moi, personnellement, cette table ronde là-bas est inopportune et inutile. Parce que, à ce que moi je sache, elle n'aura pas à résoudre aucun problème. Et selon la déclaration du ministre de l'Intérieur, disant comme quoi l'insécurité de Bukavu résulte d'une situation là-bas intercommunautaire. Ici, il n'y a pas de conflit intercommunautaire. Ce sont des conflits qui nous sont créés, qui nous ont été amenés par les réfractaires.
Moi, je m'appelle Claude, je réagis à partir de Bukavu. Bon, pour moi, c'est une bonne chose que cela se passe au niveau des communauté, parce que faut que les gens se mettent ensemble et que puissent réfléchir sur les problèmes qui concernent leur milieu.
Je m'appelle Benjamin Boliki, je suis un habitant de la ville de Bukavu. Encore une distraction de la part des autorités nationales. C'est un passe-temps inutile, encore une fois, parce que si on demandait à ces autorités-là de nous dire quel est le conflit communautaire qu'ils ont identifié ici au sud Kivu, c'est-à-dire entre quelle communauté ethnique vivant au sud Kivu, je crois que n'aurait pas de réponse à nous donner.
Moi, je m'appelle Freddy Batechi, je suis ici à Goma. Je trouve que cette table ronde n'a pas vraiment le sens d'être organisée la semaine prochaine, comme ils ont parlé de 10 jours. Nous devons savoir qu'est-ce qui sera dit dans cette table ronde. Est-ce que toutes les couches seront déjà mobilisées? On aura déjà arrivé dans tous les coins de la province du Nord Kivu pour savoir le problème de chaque couche.
Moi, c'est Eli Mabelo Kibunda. Il y a ceux qui sont arrivés. Il y a ceux qui sont au pouvoir, il y a ceux qui sont vraiment dans la rue. Il faut d'abord qu'on puisse établir la paix, qu'on puisse établir, disons, la justice, qu'on puisse savoir qui a fait quoi. C'est un élément très important également qu'on ne peut pas s'en passer.
Voilà, contactés sur le même sujet, certains leaders de ces 2 provinces se sont aussi exprimés. Le professeur Ndécho, par exemple, pense que c'est bon, une table ronde, mais il faut régler la question de réconciliation entre les autres communautés du Kivu et la minorité des Tutsis congolais avant de mettre fin au mouvement des groupes armés par la force. Jason Lumeno, président de la société civile du Nord Kivu, approuve, lui, l'idée de la table ronde et espère que cela va régler la question notamment des combattants FDLR. Quant au député provincial du Sud Kivu, Bouamba Amba, pense qu'il faut une réelle volonté politique au-delà de cette table ronde, car selon lui, elle risque d'être une réunion de trop. Félix Kabouzi, réaction.
Non, ça ne sera vraiment pas une réunion de trop. Je pense que ce sera même la réunion de toutes les chances, pratiquement, ou de la dernière chance pour ces deux provinces. Vous savez que le Kivu constitue aujourd'hui un problème pour le pays, pour toute la nation. Et même lorsque dans les témoignages, les gens disent qu'il n'y a pas de problème entre communautés, ce n'est pas vrai. Les vrais problèmes du Kivu aujourd'hui, il y en a probablement trois. C'est la présence des Interahamwe qui constitue une menace pour l'ensemble, n'est-ce pas, de toutes ces deux provinces. C'est le problème intercommunautaire, c'est le problème d'intolérance entre les communautés rwandophones et non-rwandophones, ou si vous voulez, les communautés dites autochtones congolaises, mais également les problèmes aujourd'hui que pose la présence des hommes armés autour de Laurent Kunda. Je crois que ces problèmes-là doivent être discutés et je pense sincèrement qu'on a mis beaucoup de temps. Vous savez que l'un des objectifs majeurs de la transition était notamment la réconciliation. Et on n'a absolument rien fait pendant la transition pour rapprocher les communautés du Kivu.
Mais par quoi commencer maintenant, Félix Oukabouizi ? Est-ce qu'il faut encore des bardas ou encore d'abord s'attaquer aux groupes armés ?
Non, moi je pense qu'il faut d'abord réconcilier. Il faut réconcilier parce que tout part d'abord du fait qu'il y a intolérance entre les communautés. Puisque aujourd'hui, là, même si on convoquait cette, disons dans la table ronde, il y aura probablement deux parties, selon moi. Il y aura d'un côté les rwandophones qui semblent de plus en plus aujourd'hui être identifiés autour ou dans la personne de Laurent Kunda, et les autres communautés qui ont leur approche à eux aussi.
Mais comment on peut se réconcilier tout en ayant des groupes armés sur terrain?
Mais justement, le problème de groupes armés devrait faire partie des discussions lors de cette table ronde. C'est plus ou moins l'approche, si vous voulez, du dialogue, l'approche pacifique. On a essayé de réduire militairement les groupes armés, on n'est pas parvenu. Donc il faudrait que tout le monde, et les représentants même de Laurent Kunda, se retrouvent à cette table ronde-là. Et l'objectif ne devrait pas être de triompher sur l'autre partie. Il faudrait que vraiment les délégués des deux Kivu qui viendront à cette rencontre-là viennent avec l'esprit de se faire des compromis, de discuter, d'aboutir à une solution où chacun trouvera son compte, où chacun gagnera. Mais si on vient dans le but d'imposer, en quelque sorte, autour de ce dialogue-là, une thèse sur l'autre, certainement que ça ne marchera pas.
Vous dites c'est une réunion de la dernière chance. John Gomboa, vous avez suivi aussi les différents avis de la population. Quelle impression vous avez?
Bon, vous savez, ça fait plusieurs émissions ici. Nous soutenons, moi personnellement, l'approche au dialogue dans un premier temps sur la situation qui prévaut dans les deux qui jouent. Parce que l'option militaire est insoutenable, au moins par les FARDC. Et on ne sait pas extirper ce qu'on considère comme le mal. Alors il faut y aller par le dialogue. Maintenant, ces dialogues ici offrent peut-être l'avantage d'une certaine distance. On s'éloigne un tout petit peu du site. On peut parler de façon sereine. Bon, mais il faudrait aussi qu'on ne puisse pas noyer le poisson. Je crois que Félix vient de relever les trois axes autour desquels devraient tourner ces dialogues. Il ne faudrait pas non plus noyer le poisson.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire fuir le problème parce qu'il faut regarder comment travailler sur les vraies questions qui se posent là, entre autres la cohabitation avec la communauté rwandophone, les problèmes des hommes de Kunda et les problèmes des communautés du nord et sud Kivu.
Mais au sud Kivu, vous avez suivi, il y a beaucoup de gens quand même qui disent que là, le problème interethnique ne se pose pas.
Non, c'est-à-dire qu'ils ont relativisé par rapport à eux. Les premiers problèmes, c'est sûrement un ordre de croissance. Ils voudraient sûrement qu'on commence par Laurent Kunda. Mais si on enlevait Laurent Kunda et ses hommes, mais on ne peut pas dire que la cohabitation a toujours été heureuse entre les communautés, surtout du Sud Kivu, surtout.
Albert Moïssa, vous avez déjà le privilège d'être à Goma. Vous êtes donc concerné parce que vous êtes dans l'une des deux provinces concernées, je dirais, par cette table ronde. Votre avis?
Oui, mon avis est tout à fait contraire de ce que pense peut-être le gouvernement, à ce sens où on pense que c'est le dialogue qui serait, le dialogue entre les communautés vivant au nord et au sud du Kivu qui serait à premier lieu.
Donc,
le problème de l'Est, c'est le problème d'abord militaire, pour régler d'abord les questions des bandes armées les questions de groupes, de poches qui se trouvent dans les massifs, dans les Walikale, dans le sud de Lubero, dans le Minembwe. Ça, c'est le vrai problème de l'Est. C'est ça ce qui est d'abord la base de tous les problèmes.
Mais Félix Fabrizi n'est pas d'accord avec vous, même John Gombo.
Oui, il ne sont pas d'accord avec moi parce que moi je vis à Bouta. Le problème de communautés ou de dialogues, je ne sais pas, cohabitation pacifique, nous le faisons. Aujourd'hui, vous trouverez à Goma, il y a une structure qu'on appelle les barzans intercommunautaires où toutes les tribus sont dedans. Ils se retrouvent, ils échangent, ils font ceci, ils font cela. Le problème est militaire. Le problème, on ne sait pas. Quelle est l'armée qui est à l'Est? Et c'est les FARDC, ce sont les Interahamwe, ce sont les hommes de Laurent Kunda, c'est qui est homme armé à l'Est de la République démocratique du Congo. Ce sont les vrais problèmes. Le général, le ministre de l'Intérieur, Denis Kaloum, est arrivé à Goma avec 10 ministres. Mais l'opinion a jugé cette mission sans objet. Parce qu'ils arrivent, oh bon, nous venons trouver solution ici, ce qui ne va pas. Mais ils savent ce qui ne va pas ici, chez nous à l'Est, plus précisément à Goma. Vous retrouverez des gens que vous ne connaissez pas, le lendemain vous trouvez des figures, mais qui est élément militaire, qui est militaire de la 8e région, qui est militaire de la 10e région. C'est ça le vrai problème. On commence d'abord par là, parce que la cohabitation, nous vivons, toutes les communautés, les randophones, les Congolais Tutsi, les Congolais Hutu, les Nandes, les Tembo, je ne sais pas qui. Nous vivons tous ensemble, nous échangeons, nous faisons le commerce, mais la cohabitation est là, mais qu'on règle la question militaire.
Oui, mais on a suivi le professeur Deschaux qui a évoqué justement ce problème. Pour lui, le Barza ne semble pas avoir réglé la question de réconciliation entre communautés.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le professeur Ndesho, parce qu'aujourd'hui, comme je vous le disais là, la minorité dont il faisait allusion, les Tutsis congolais, nous sommes avec eux. Si, même dans la corporation journalistique, nous vivons ensemble, nous nous échangeons, nous faisons ceci. Moi, je pense que pour le professeur Ndesho, peut-être qu'il a un agenda où il parle d'une autre minorité qu'on ne connaît pas, mais à ce qui est cohabitation pacifique, à Goma et à Bukavu, cela ne serait pas d'abord la priorité de la table ronde. La table ronde commencerait par régler les problèmes militaires.
Oui, Félix Kabouzi, réaction.
Oui, c'est vrai. Il est évident qu'il y a un problème d'organisation hein, de l'armée, notamment en ce qui concerne la discipline hein, et peut-être la taille même de l'armée et même l'organisation pratique de l'armée dans l'ensemble des provinces du pays. Mais on ne peut pas vraiment taire les problèmes fondamentaux du Kivu qui se situent, comme on l'a dit, dans la cohabitation difficile. Même les groupes armés constituent une réponse, à mon avis, si vous voulez, à la haine qui règne dans ces provinces.
Des groupes d'armées qui se, je dirais, qui sont même
le fait
affiliés ou qui se reconnaissent en certaines communautés.
Mais justement, ces groupes d'armées sont essentiellement aujourd'hui composés, d'un côté il y a les Maï-Maï, qui sont venus comme une réponse aux groupes armés constitués autour des wandophones. Et donc, lorsqu'on approche même les problèmes militaires, il faut savoir que la cause ou la source de la prolifération de ces groupes armés réside dans les frustrations, dans les angoisses des différentes communautés qui ne s'entendent pas. Il faut absolument qu'on arrive à atténuer l'intolérance interethnique autour des populations du nord et du sud du Kivu. Je crois qu'on peut tout dire. C'est ça le point fondamental. Et ce sont des choses parfois difficiles à avouer. On n'a pas toujours, parfois, le courage d'avouer ça. Il y a des gens dans certaines de ces provinces-là qui pensent que leur groupe uniquement est composé des gens bons et l'autre groupe est composé essentiellement des gens mauvais. C'est ça le discours qu'il faut extirper et faire comprendre que les deux groupes doivent cohabiter et que de part et d'autre, on a intérêt à s'entendre. Autrement, on va tenter mille fois l'expérience militaire, on n'arrivera jamais à une solution.
Oui, John Gomboy, finalement, que doit faire ou comment, je sais pas, comment procéder avec une telle table ronde pour régler définitivement ce problème?
Je pense qu'on doit d'abord écouter les gens, permettre à ce que l'échantillon des acteurs
passif ou actif dans ce conflit se retrouve représenté, parce que il serait une erreur de choisir les uns et de laisser les autres. Donc il faudrait d'abord qu'on puisse sélectionner un échantillon représentatif de toute la communauté et de tous les intervenants dans ces conflits.
C'est ce qu'on a suivi, qu'il y a la population qu'on a interviewée qui a l'impression, même certains leaders, que le pouvoir central leur imposait un schéma de table ronde comme si ils n'étaient pas consultés.
Bon, mais c'est aussi, qu'est-ce que vous voulez, c'est aussi ça, le pouvoir, hein, parce que à un moment, le pouvoir doit savoir ce qu'il fait, il doit prendre des décisions, même si elles sont impopulaires, à partir du moment où les décisions sont justifiées par un objectif, en ce moment-là, on est obligé de les imposer. Parce que si on laisse seulement aux ressortissants du Nord et du Sud qui vont régler ces problèmes, on a vu dans quel extrémisme est-ce qu'ils se lancent tous. D'ailleurs, quand on écoute les conseils, on comprend qu'il a une position prise. Mais quand, par exemple, les Kinshasa, on regarde ces problèmes, on a une approche tout à fait différente qui permet à ce qu'on puisse écouter à gauche et écouter à droite. Mais quand on est là-bas, il faut absolument que ce soit l'autre qui ait tort et l'autre qui ait raison. Donc moi, je me dis qu'on doit ici prioriser l'écoute de toutes les communautés, sortir un échantillon représentatif de toutes les communautés, les écouter et aller au-delà des limites de tout un chacun.
Est-ce que vous pensez que si le gouvernement doit se mettre à écouter, là vous donnez l'impression comme si le gouvernement n'était pas au courant de ce qui se passe, du vrai problème?
Non, mais moi je crois que ce problème c'est aussi un problème de communication. Ce problème, cette flambée de violence, c'est un problème de communication, un problème de préjugés. On doit organiser, si vous voulez, une sorte de dialogue qui vous sied à un niveau réduit, comme on l'avait fait avec les Congolais, les dialogues intercongolais. Il y a beaucoup de préjugés dans cette affaire. Et quand on se lance dans des préjugés, on est dans des extrémismes. Donc il faut permettre finalement à tous ces frères qui se retrouvent sur cette terre du Kivu de pouvoir se parler, parce qu'ils n'ont que cette terre. Et alors, à quoi sert de pouvoir chasser les uns, de tuer les autres, ainsi de suite? Ils ont tous intérêt à pouvoir travailler pour que les Kivu se développent, au lieu qu'aujourd'hui les Kivu soient le ventre mou du Congo.
Dernier sujet de cette tribune de la presse, la révélation ou l'information donnée par la radio BBC sur l'implication de certains casques bleus pakistanais dans le trafic or contre armes en Ituri. Je vous prie d'abord de suivre la réaction de la MONUC sur ce fait, qui affirme que ces allégations remontent à 2006. Kema Saiki, porte-parole de la MONUC.
Dès l'apparition de ces graves allégations en 2006, la MONUC a décidé immédiatement de demander à ce qu'une enquête soit menée par le Bureau des services de contrôle interne des Nations Unies. Lorsque son enquête sera terminée, le Bureau des services de contrôle interne communiquera son rapport et ses recommandations au département du maintien de la paix des Nations Unies. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo a une politique de tolérance zéro absolue, problème de mauvaise conduite, et demeure vigilante dans la prévention de comportements graves et inacceptables. La MONUC est déterminée à sanctionner de manière implacable quiconque dont la conduite sera avérée comme étant indigne d'un soldat de la paix. Dans le même temps, la MONUC réitère sa confiance dans l'immense majorité de ses casques bleus qui se conforment aux normes de conduite onusiennes les plus élevées, ainsi qu'elle réitère sa gratitude pour leur dévouement et le magnifique travail qu'ils accomplissent au service de la paix dans un pays qui a trop longtemps souffert, particulièrement en Ituri, où ils ont désarmé de 15 000 miliciens.
Oui, Félix Kabouizi, vous êtes directeur de publication de la Référence Plus. Un commentaire sur ce fait.
Vraiment, il faut constater que c'est le sommet du scandale. On a connu, il y a quelque temps, des militaires, hein, des casques bleus à qui on a reproché des comportements de mœurs. Comme on a dit, c'est la tolérance zéro. Mais ici, il ne s'agit pas de problème de mœurs, il s'agit d'un problème extrêmement grave où des militaires, des casques bleus, se retrouvent dans le trafic des matières précieuses, voilà une première infraction. Deuxièmement, et c'est ce qui est extrêmement grave, ils auraient trafiqué également des armes avec une milice de l'Ituri. Je pense que dans l'histoire des différentes interventions de l'ONU à travers le monde, ça devrait probablement constituer le premier cas du genre, et c'est là le plus grand scandale vraiment de la présence de la MONUC en Ituri. Vous savez que dans la plupart des provinces de l'Est du pays, les gens n'avaient pas toujours une bonne image, n'est-ce pas, des militaires de la MONUC. Par exemple, à l'Est, en Ituri particulièrement, on disait que les militaires de l'ONU, l'UN en anglais, ils étaient un le jour, la nuit ils étaient nus, et au combat ils étaient nuls. Voilà que ces mêmes militaires...
Est-ce que c'est pas exagéré ce jugement quand
non,
on voit le travail fait par la MONUC quand même à l'est du pays?
Oui, mais tout ce travail-là aujourd'hui est complètement éclaboussé avec ce scandale. Complètement éclaboussé. Vous vous rendez compte, dans une province où deux communautés sont en conflit, la MONUC, qui est censée venir s'interposer, rétablir le calme, se permet d'armer une communauté contre une autre. Ces armes-là ont tué des hommes. Et c'est à ce niveau-là que ceci est le plus grave scandale. Donc, je pense que on veut relativiser, si vous voulez, ce scandale, mais c'est extrêmement grave. Je pense que ailleurs, ça devrait vraiment interpeller toutes les consciences.
On veut relativiser comment?
Non, on veut relativiser en disant que bon, on mène une enquête depuis 6 mois. Non, ça, c'est des choses extrêmement graves. Vous vous imaginez ce que la MONUC reçoit comme contribution de par le monde? L'ONU est une institution qui a été créée pour maintenir la paix à travers le monde. Mais ici, à Ituri, une partie de ces militaires se détournent de cette mission-là et arment des milices tribales. C'est extrêmement grave.
Mais qu'est-ce que vous auriez voulu, qu'est-ce que vous auriez attendu, vous, de la MONUC, qu'elle accuse comme ça sans mener une enquête?
Non. Écoutez, vraiment, à Ituri, ça, c'est un secret de polichinelle. Hein. On a des correspondances qui viennent de là, c'est depuis plusieurs années, en tout cas plusieurs mois, que des gens accuser les militaires de la MONUC de connivence avec certaines milices. La preuve, c'est que pendant que la MONUC est aujourd'hui sous le chapitre 4, qui lui donne l'autorisation, le mandat d'imposer la paix, car cela est nécessaire, de réduire même militairement certains groupes armés, on n'a jamais vu, à part lorsque il y a eu mort d'une dizaine de casques bleus, c'est la seule fois où la MONUC a agi sous le chapitre 7. Donc ici, il y a effectivement une complicité, une collision terrible entre les soldats pakistanais, peut-être d'autres aussi, avec les milices de l'Ituri, et c'est là où les gens se demandent.
Vous avez l'impression qu'il y a eu un certain laisser-aller
Certainement que oui, certainement que oui. D'abord, on trafique l'or. On n'a pas payé, des taxes à l'État congolais. C'est de la fraude. Ces militaires-là sont doublement poursuivables. Et je pense même que s'ils s'avéraient qu'effectivement des armes ont été vendues, ont été données, mais ils doivent être poursuivis même pour des massacres en Ituri.
Voilà, John Gomboa de Antenna.
Oui, mais vous savez, les casques bleus, je dis c'est pas des anges, hein, c'est des hommes qui peuvent être tentés, et ils l'ont déjà été dans ce pays. Il y a eu des cas avérés.
Il faut préciser que c'est pas tous les casques.
Non. Certains, bien sûr. Maintenant, moi je dis, Monsieur Saïki a évoqué une enquête. L'enquête a débuté quand? Et va terminer quand? Mais pourquoi, est-ce qu'à l'époque on en a fait pas parler? Hein, il a fallu que BBC annonce la nouvelle pour finalement faire une sorte de récupération de la situation. Donc, ça paraît quand même un tout petit peu mouche. Je ne saurais m'avancer davantage parce que pour l'instant, les preuves ne sont peut-être pas aussi évidentes que ça. Même si déjà en amont, il y a eu un certain nombre d'attitudes et de comportements. Mais je dis quand même, sachant cela, on aurait dû quand même informer l'opinion sans attendre que les médias les fassent. Et quand les médias décident de les faire, ils les font à sa façon. Maintenant, tout ce qui pourra venir après sera plus ou moins occulté. Voilà.
Donc pour vous, la MONUC s'est prononcée parce que BBC l'a révélé.
Et bien sûr, parce que M. Saïki a dit que c'est depuis 2006, donc lui il est au courant, ils n'en ont pas parlé, il tient chaque semaine un point de presse où il peut expliquer ce genre de problème. Il ne fallait pas attendre que BBC le dise.
Peut-être que la référence puisse pouvait le faire, est-ce que vous dites parce que vous avez dit que pour vous c'est un secret de polichinelle?
Oui, secret de polichinelle, vous savez, on ne peut pas avancer, publier certaines informations tant qu'on ne les maîtrise pas entièrement. Mais je vous dis que dans la rumeur...
Donc vous donnez raison à la MONUC, donc...
Non. La MONUC était sur le terrain. La MONUC a des armes. La MONUC a des munitions. Mais si elle ne sait pas contrôler le nombre des armes qu'elle a, si elle ne sait pas contre le nombre de munitions qu'elle a, si ces hommes peuvent trafiquer jusqu'autour de 5 millions, d'après certaines sources, 5 millions de dollars. Certains trafics qui auraient tourné autour de 5 millions de dollars. Et que personne à la Monique, ni à Kinshasa, ni à Bounen ne le sache, quelque part, on peut penser qu'il y a une complicité même à plus haut niveau. Donc je crois que quand ils disent qu'ils mènent l'enquête depuis 2006, ça fait pratiquement une année. Et j'ai même suivi qu'ils vont probablement boucler cette enquête-là dans 3 semaines. C'est qu'effectivement, comme John Gombon l'a dit, c'est le fait que BBC ait publié l'information qui les a amenés à parler. Probablement que si l'information n'avait pas filtré dans la presse, on aurait cherché probablement même à terre l'information.
Peut-être que la référence suisse allait être cette fois-là publiée. Albert Mouissa, rédacteur en chef de Radio La Colombe. Albert ?
Oui. Oui, je suis en ligne et je suis tout ce qui est en train de se passer. Et là, encore une fois, nous ne faisons que saluer le rôle de ce média-là qui nous a livré l'information, qui est la BBC. Mais à ce message, c'est là vraiment, c'est le scandale pour les casques bleus de la Monique, pour ceux, comme disait mon confrère, qui sont censés maintenir la paix et l'ordre, mais c'est lire là des pratiques qui ne montrent pas du tout la Monique. Et vous allez vous rappeler, vous qui vivez à Kinshasa, moi je suis à Goma, en province, et l'opération de l'IFOR, l'IFOR qui faisait l'échange de lézards avec, je sais pas, 30, 60 dollars et 100 dollars. C'est là, mais ce qui nous inspirait. Donc, cela veut dire que c'est toujours dans la pratique de la Monique, même si l'IFOR n'est pas totalement inclus dans la Monique, mais on peut dire que ce sont les oiseaux des mêmes plumages.
Est-ce que vous aviez, livré cette info? Est-ce que Radio La Colombe avait fait comme BBC à l'époque?
Pardon?
Est-ce que la Radio La Colombe avait donné cette information?
La Radio La Colombe n'a pas donné l'information, mais la Radio La Colombe capte BBC en relais. Donc nous pouvons que nous réjouir que c'est la Colombe a fait aux auditeurs de Goma cette information par facilité des relais BBC à diffuser et à travers la Colombe toute la population a capté en FM. Et nous ne faisons que nous réjouir de ça.
Et comment expliquez-vous que cette info vous ait échappé?
Bon, cette information nous est échappée parce que, comme l'a dit mon confrère, même nous n'avions pas encore réuni presque tous les éléments. Et je vous annonce que d'ici là, nous allons aussi publier pour ce qui concerne la Monique de Goma avec tant de minerais, avec tant des ivoires ici chez nous. Eh bien, des trafics sont en train de se passer. J'attends, en tant que rédacteur en chef, maîtrisant bien l'éthique et la déontologie, j'attends dès que tous les éléments sont réunis. Je vais même faire part à Radio Capi Goma les résultats que nous aurons à ce qui concerne cette trafic-là. Donc ce n'est pas de nouveau pour les casques bleus. Nous pouvons dire que c'est dans la coutume des casques bleus qui nous arrivent ici. Ils font ceci ou cela, mais nous attendons réunir tous les éléments pour qu'à notre niveau, nous puissions aussi publier quelque chose de ce genre-là.
Oui, mais non, en tant que professionnel de la presse, que peut inspirer cette info livrée par BBC, Félix Kabouzi?
Non, je pense que ça nous incite à ouvrir l'œil, en tout cas autour du mandat de la Monique.
Uniquement la Monique?
Oui, mais si c'est vraiment pour parler de nos forces armées, ça c'est vraiment quelque chose de connu. Hein. C'est connu, chaque fois qu'on envoie un général dans une province, il vient, il s'enrichit, il construit, il s'installe. Et on connaît les détournements des fonds, on connaît aussi même le trafic d'armes, hein, on en a connu dans le Kivu. Hein, les premières armes dont s'est servi les différentes milices là-bas ont été vendues par les militaires de Mobutu. Donc, mais on ne pouvait vraiment pas s'attendre à ce qu'un tel comportement vienne de la part des militaires gracieusement payés, des militaires formés, des militaires qui reçoivent même une formation spécifique pour les régions où ils partent défendre la paix. Ça nous amène vraiment à ce que nous puissions désormais ouvrir l'œil et voir de très près le comportement de tous les militaires dans mon pays.
Oui, John Komba, Nantena.
Moi, je pense que c'est une interpellation pour les pouvoirs congolais, parce que aujourd'hui, la MONUC est une structure qui est même plus forte que l'État congolais. Elle parvient à contrôler les pays plus que le gouvernement le gouvernement. Alors, je pense que c'est une interpellation. Il faut que le gouvernement ouvre l'œil. Et le bon, c'est vrai, la MONUC est venue nous aider, mais bon, il faut quand même faire la part des choses.
Et peut-être nous investir en tant que journaliste dans des enquêtes.
Absolument. Bon, oui, évidemment, mais écoutez, les médias locaux sont aussi en train de grandir, de renaître comme le pays, et on n'a pas toujours le moyen qu'il faut pour mener ce genre d'enquête, mais nous avons plus ou moins des éléments épars qui sont consolidés par les informations telles que données par BBC.
Merci John Gomboa, Félix Kabouizi et Albert Mouissa. Fin de cette tribune de la presse réalisée par Nadine Foula et Alain Goy était à la technique. Merci à tous de nous avoir suivis. Thank you.